Vous saurez à la fin ce que ça veut dire. Et si vous savez lire ça, c'est que vous êtes vraiment très fort. Bon, enfin, on y arrive. Alors, bon, moi aussi, je voudrais vous remercier de cette invitation, qui pour moi est quand même un exercice difficile, parce que je me suis intéressée tardivement à l'Énéide, parce que pendant très longtemps, je ne comprenais absolument pas de quoi il était question dans l'Énéide de Virgile. Je vais vous faire quelques propositions. Je ne suis pas sûre que ça soit tout à fait juste, mais enfin, bon, on verra. Alors, voilà. Donc, en fait, l'Énéide, comme tous les textes anciens, antiques, disons, a été victime du 19e puis du 20e siècle. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de prendre des distances avec l'image qui en a été créée à ce moment-là. En effet, pendant ces 2 siècles, les historiens ont développé ce que j'appellerais une idéologie primitiviste de la fondation. Je vais parler de la fondation. En effet, la fondation serait un acte unique et sacré, obligatoire, une origine contenant en germe l'avenir de la cité et dépositaire de son identité. Si vous voulez, c'est un peu résumé, mais c'est ça. Donc voilà ce qu'on attendrait de l'Énéide, hein. Et alors, c'est ainsi que l'Énéide a été classée parmi les grands chants mythiques. Alors, il y a un texte très étonnant de Fustel de Coulanges dans la Cité antique, donc en 1864. Hein, je ne vais pas lire tout le texte, mais vous voyez que vous avez donc une définition de la fondation telle que je vous en parlais, qui était donc un acte sacré, premier, etc., etc., hein, la prière, le foyer, enfin tout. Et puis son souvenir, alors donc cet acte unique, et puis le souvenir se perpétuait et, par des rituels, hein, et peut-être n'y avait-il pas une seule ville qui ne possédât son poème, ou au moins son hymne sur l'acte sacré qui lui avait donné naissance. Comme vous savez, pour Fustel de Coulanges, c'est aussi bien les cités grecques que Rome. Et voilà, tout à fait étonnant, parmi tous ces anciens poèmes qui avaient pour objet la fondation sainte d'une ville, alors le sacré, le saint, bon, il en met beaucoup, il en est un qui n'a pas péri, parce que si son sujet le rendait cher à une cité, ses beautés l'ont rendu précieux pour tous les peuples et tous les siècles, et c'est l'Énéide. Voilà, c'est une drôle de définition, mais voilà. Alors, en fait, vous avez ici un modèle, hein, qui est appliqué à l'Énéide, c'est-à-dire celui de la fondation. Alors, il s'agit d'un événement, alors, je dis bien historique, c'est-à-dire que les commentaires, c'est bon, c'est plus ou moins l'histoire, mais enfin, ça a été. Il y aurait quand même eu un événement qui serait une origine et qui est inséré dans une chronologie, hein, et qui serait conservé par une mémoire mythique. Voilà. Alors, puis au XXe siècle, ça a été, j'allais dire, pire, hein, puisque, en fait, l'Énéide est chassée du paradis romantique. Homère, magnifique Homère, est conservé. Il correspond bien à l'image qui a été fabriquée à ce moment-là du barde inspiré, hein, alors que Virgile, lui, c'est un poète en chambre, hein, il écrit, alors, ô horreur, sur commande, hein, et enfin, c'est un imitateur. Donc, Virgile, c'est un Homère de carton-pâte. Voilà. Donc, mais en revanche, alors, ce qui se passe au XXe siècle, donc, Homère chassé, mais le récit, c'est-à-dire le récit des origines troyennes, en revanche, lui, est conservé, il serait authentique et ancestral, hein, et il devient le mythe fondateur d'une civilisation. Alors, vous voyez comment ça glisse, on passe donc du politique à l'ethnique, hein. C'est-à-dire que, bon, il y aurait, avant la fondation de Rome, les origines troyennes de Rome, etc. Et ça, je dois dire que ça a fait fureur. Alors, ce que je voudrais, donc ça, c'est le 19e et le 20e. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est extrêmement modeste, en fait, hein, c'est tout simplement un retour historique et philologique à l'Antiquité, hein, c'est-à-dire à la fois prendre, voir de façon dans le détail, enfin dans le détail, de façon la plus précise possible. D'abord, c'est quoi cette histoire d'Énée, hein, et qu'est-ce que c'est que ce texte de l'Énéide? Alors, en fait, Ce que je voudrais dire très, très simplement, c'est que certes, l'Énéide est un récit de fondation, mais ce n'est pas pour autant que ça en fait un texte fondateur. Je veux dire, c'est là où il faut faire quand même attention, quitte à... Alors, je ne vais pas vous décevoir, je vais quand même vous dire que ça a fondé quelque chose, mais peut-être pas ce à quoi on s'attend. Alors, donc, oui, j'ai mis en fait les trois termes grecs et latins que je vais utiliser. En effet, le récit de fondation, c'est un genre. Alors, ktisis en grec, c'est la fondation, mais c'est aussi le récit de fondation. On dit une ktisis, je ne sais pas trop à partir de quand. C'est bon, sans doute un terme de critique littéraire. Je crois que c'est dans l'Antiquité déjà. Donc, en fait, l'Énéide appartient au genre de la ktisis. Hein. Et ces récits de fondation se sont énormément développés dans l'Antiquité grecque, hein, et, enfin bon, dans l'Antiquité méditerranéenne. Hein, vous allez voir pourquoi je dis ça. Il s'agit donc de fondations de colonies en général. Hein. Les cités qui n'ont pas été fondées comme des colonies ont quand même des récits de ktisis. Donc c'est un genre mythographique extrêmement banal. Je veux dire, il faut commencer par se dire que l'Énéide, c'est quelque chose de très banal. Hein, et ces récits de fondation n'avaient absolument pas de valeur identitaire ou religieuse que Fustel de Coulanges veut leur attribuer et que les modernes ont voulu donner. En effet, on voit, et ça a été très bien étudié par Claude Calam sur Cyrène, hein, que les mythes de fondation pour une seule cité s'entassent. Il n'y a pas ce beau schéma, hein, une cité, un mythe, une fondation, etc. Hein. Chaque cité va entasser les mythes de fondation écrits par des mythographes. Hein. C'est-à-dire c'est commandé à des mythographes. Alors, à partir du VIe siècle, et on voit que les villes sont fondées plusieurs fois, mais sans qu'il y ait absolument concurrence entre les différents récits. Ça s'entasse, ça s'empile. Je suis heureuse de voir que ça vous étonne. Hein, mais en fait, c'est parce que c'est nous qui avons une idée fausse. Hein. Et alors, donc, c'est bon pour toutes les cités. Alors, les cités grecques, bon, Carthage, enfin, toutes les cités méditerranéennes ont tous ces mythes de fondation. Hein. Et alors, Rome est particulièrement riche de nombreux mythes de fondation différents. Et ça, bon, je vous renvoie au texte que je n'ai pas mis parce qu'il est très long, puis bon, ça ne vaut pas la peine de le commenter mot à mot, celui de Denis d'Halicarnasse dans les Antiquités romaines, 1, 72-73. Alors, ça, l'intérêt, c'est que Denis d'Halicarnasse est contemporain de Virgile. Hein, et il rapporte tous les récits des différents mythographes, enfin tous, en tout cas un grand nombre, des différents mythographes sur la fondation de Rome. Il y en a d'autres après, chez Plutarque, enfin, il y en a un peu partout. Et dans un... alors, je continue à vous étonner, peut-être, je ne sais pas. Dans l'un de ces récits, Énée arrive avec Ulysse, hein, et chacun va fonder des petites choses, hein, et Énée va fonder Rome, hein, et dans un autre, Ulysse et Circé. Vous savez, il a fait un petit tour chez Circé, et en particulier dans son lit. Donc, ils ont eu trois fils qui s'appelaient Romos, Antéas et Ardéas, qui chacun construisirent et ont fondé trois villes et les appelèrent de leur nom. Donc, Rome, dans cette version, a été fondée par un fils d'Ulysse et de Circé. Voilà. Alors, bon, je vous passe, j'ai un nombre incroyable de récits. Alors, à la fin, il fait le bilan, Denis d'Halicarnasse. Il dit finalement, Rome a été fondée trois fois. La première fois avant la guerre de Troie, hein, une deuxième fois juste après la guerre de Troie, et une troisième, 15 générations plus tard. Je vous passe la façon dont il compte les générations. Bon, voilà. Donc, on est dans un cas... vous voyez, donc, en fait... Il y a des couches successives de fondation. Alors, vous allez me dire pourquoi il commande tant de... Pourquoi toutes ces versions? Alors, est-ce qu'il va falloir faire... les mettre ensemble, voir la... Bon, non, pas du tout. C'est pas du tout des variantes très anciennes, archaïques, etc. Pas du tout. Souvent, d'ailleurs, on connaît les noms des mythographes qui les ont créés, en particulier pour celle d'Énée. Hein. Mais en tout cas, on s'appelle... Alors, ça a été très bien. Ces nombreux mythes de fondation servent, en fait, à établir des sungeneiai, c'est-à-dire des cousinages entre les cités. Hein. Alors, ça a été très bien étudié, ça, par Olivier Curti. Hein, alors, je lis comme ça les... Bon, je pourrais vous donner les références. Les parentés légendaires entre cités grecques, catalogue raisonné des inscriptions, etc., etc., en 1995. Et pour ce qui est de l'Italie, c'est le très beau livre de Dominique Briquel, qui s'appelle « Les Pélages en Italie ». Recherche sur l'histoire de la légende. Et en fait, alors ce qui se passe, c'est que tout ça, toutes ces cités, donc pour faire une politique extérieure, c'est une fonction diplomatique, soit pour faire des alliances, soit pour faire la guerre, la ctisis, c'est le langage de la diplomatie. Hein. En effet, vous avez un système de cités, il n'y a pas de droit international, etc. Donc, pour rencontrer des gens et leur expliquer qu'il faut faire une alliance, hein, eh bien, on utilise la sungeneia. C'est extrêmement simple. Hein. Et alors, pour ça aussi, alors, on utilise évidemment les héros voyageurs hein, de la mythologie, ou les héros homériques. C'est là où on va retrouver Homère. Et alors, quitte à changer un peu le texte homérique, mais bon, ça ne pose pas de problème. Hein. Vous savez, il est dit que Énée deviendrait le roi des Troyens. Alors, on change, on remplace Troécie par Pantécie. Voilà. Bon, et il devient le roi de tout le monde. Bon, enfin, bon, ça, c'est pas un problème. Je veux dire, comme il vous a été très bien expliqué, beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, hein, il n'y a pas de sacralisation des textes, il n'y a pas de ça. Alors, donc, en fait, toutes les villes d'Italie ont commandé, à partir du VIe siècle au moins, des ctisseis hein, à des mythographes ou des logographes grecs. Et alors, pour faire ces récits mythographiques, tout le monde y passe. Hein, on utilise tous les héros voyageurs, hein, Héraclès, Ulysse, Énée et leurs compagnons, hein, et pour en faire les fondateurs des cités méditerranéennes. Hein. Et alors, il y a aussi un système qui est le nom de la cité, hein, qui inspire... entre guillemets, on n'est pas avec les muses, hein, des noms, c'est-à-dire c'est Rome, Don Romulus, et donc vous demandez à un mythographe qui va se faire payer, hein, et on va donner donc, ah oui, Rome, Don Romulus, mais il y en a un autre, ça donnera Romain, qui est une femme troyenne, etc. Donc, alors vous avez un système intéressant, c'est-à-dire que les héros de l'épopée hein, vont s'allier aux habitants du lieu, eux-mêmes souvent issus de mariages mixtes, résultat de précédentes migrations. Donc, et par exemple, alors là encore, j'espère vous étonner, hein, les aborigènes, dont vous pouvez penser que c'est la même chose des autochtones, pas du tout, hein, selon Caton l'Ancien, qui n'est pas susceptible d'aimer trop les Grecs, raconte que les aborigènes sont issus de Grecs, hein, qui ont été là avant. Vous savez, c'est les Arcadiens qui ont... Ça remonte à la nuit des temps. Alors, donc, en fait, pour revenir à l'Énéide, l'Énéide va reprendre une ctisis de la cité de Lavinium, hein, tout simplement, si je peux dire, qui a été fondée par Énée, qui aurait épousé la fille du roi mythique Latinus. Latinus, oui. Bon. Alors... c'est d'autant plus facile qu'il y a un petit port en bas. Lavinium, c'est un peu au sud de Rome, du côté, près de la mer, il y a un petit port qui s'appelle Troia. Vous savez, c'est un nom assez fréquent en Italie. Donc, voilà, donc tout ça, il n'avait pas beaucoup de travail à faire. Et surtout que Énée, déjà, on le trouve dans d'autres récits de fondation. Hein. Et voilà, donc en fait... je vais insister encore sur la banalité de l'histoire. Lavinium, fondé par Énée. Alors, oui, tout de suite aussi, Troyen ou grec, c'est absolument la même chose. Les Troyens sont des Grecs. Vous savez que le gros défaut que nous avons en français, hein, c'est de traduire grec par achéen par grec. Ce qui fait qu'on construit une opposition, il y aurait les Grecs et les pas Grecs, les Troyens seraient des pas Grecs. Bon, tout ça ne marche pas du tout. Hein. Il suffit de lire Homère. Vous voyez, ces gens sont tous de la même culture. Voilà. Donc, alors, bon, je dis ça parce qu'il y a quand même eu une inflation ethnographique, ethnographique sur Énée qui ne serait pas grec. Alors, est-ce que. Bon, non. Tout ça n'est pas, je dirais. N'existe pas dans l'Antiquité. Alors, quand même, il reste une question qui est monumentale. C'est pourquoi Virgile a-t-il raconté cette cticis de Lavinium qui, au fond... Alors, pourquoi Énée et pourquoi pas Romulus? Bon. Hein. Alors, certes, bon, vous avez tout de suite la réponse, mais elle est courte. C'est-à-dire, bon, certes, il écrit pour Auguste, hein, et la gens Iulia prétend descendre de Iule, hein, comme vous savez, fils d'Aîné, hein, et donc Auguste, par adoption, mais ce n'est pas un problème, hein, descend. Voilà. Alors, en fait, donc, il y aurait une première hypothèse, mais qui ne rendrait pas compte de l'Énéide en tant que texte. Hein. Il s'agirait simplement de la récupération d'une cticis, d'un récit de fondation, au profit d'une famille, là aussi, phénomène extrêmement banal. Enfin, on est dans la banalité absolue. Bon. Mais on va, ne vous en faites pas, on va progresser. Alors, en effet, un récit de cticis, un récit grec, et là, on va faire, ça va devenir plus compliqué, on va passer de la cticis à l'origo. Alors, en effet, je répète, l'Énéide n'est pas le récit de la fondation de Rome, comme quelquefois on le lit, d'ailleurs, dans des manuels. Bon, mais de Lavinium, vous savez, ça s'arrête, on va fonder Lavinium. Alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est Lavinium. Lavinium n'est pas n'importe quelle cité, et là, je vais donc utiliser les travaux de Yann Thomas et son livre « Origine et commune patrie, études de droit public romain, 89, etc. » Ça a l'air très, très austère, et en fait, c'est absolument extraordinaire, passionnant et révolutionnaire. Vous allez voir pourquoi. En effet, donc Yann a travaillé sur sur cette affaire de Lavinium. Qui, alors, qu'est-ce que c'est Lavinium? C'est une cité latine, c'est-à-dire, bon, mais qui a un statut singulier et unique qui s'est prolongé. En effet, Lavinium est une cité qui est maintenue, alors, fictivement, vous savez, Rome fonctionne essentiellement sur la fiction. Hein, elle est elle-même une fiction, comme vous allez voir. Bon. Alors, elle est maintenue fictivement à l'extérieur de Rome. C'est-à-dire que sous l'Empire, alors que bon, tout est devenu romain, hein, elle reste une cité extérieure, puisque chaque année, le traité d'alliance est renouvelé, hein, le traité qui la lie à Rome. Mais alors, c'est d'autant plus étonnant qu'il n'y a plus personne, hein, et que c'est une cité fantôme. Alors, justement, ça vous donne l'importance. Mais alors, pourquoi ? Alors, toute l'histoire tient au fait qu'elle conserve le sanctuaire des pénates de Rome. Hein. Donc, les pénates, je vais expliquer les pénates et pourquoi c'est intéressant. Les pénates de Rome ne sont pas dans Rome, mais sont dans une cité extérieure à Rome et maintenue artificiellement à l'extérieur de Rome. Et chaque année, au moment de leur entrée en charge, les deux consuls, au début janvier, et se rendent avec les principaux magistrats, ils se rendent à Lavinium pour sacrifier aux pénates. Alors vous allez me dire, c'est quand même bizarre, ils auraient quand même pu rapatrier les pénates à Rome. Simplement, les pénates, quand on veut les bouger, refusent ces pénates-là. C'est absolument impossible. Hein, et voilà, donc on ne peut pas bouger les pénates. Vous savez, il y a des dieux, c'est assez fréquent, les dieux qui ne veulent pas changer, ne peuvent bouger de place. Quelquefois, on y arrive en demandant aux jeunes Scipion. Mais là, non, ils n'ont jamais voulu bouger. Donc, c'est Lavinium ad vitam aeternam. Or, alors, qu'est-ce que c'est que ces dieux pénates de façon très résumée, sans doute un peu grossière, je vais dire que les dieux pénates, vous savez qu'ils se trouvent à côté du garde-manger, hein, ou dans, oui, articulent l'implantation au sol de la maison avec le lignage paternel. Hein, voilà. Et donc, c'est vrai donc pour une maison, et ici il s'agit des pénates de Rome. Donc on s'attendrait à ce que ces dieux soient à Rome, dans la regia, c'est-à-dire ça aurait été les dieux des rois, ou au moins dans le sanctuaire de Vesta. Donc Rome n'a pas de pénates. Donc si Rome n'a pas l'avinium, hein, elle n'est pas complète. Elle n'est pas articulée légitimement au sol. Et donc, Rome n'est complète comme cité politique qu'avec l'Avignon. Alors, c'est évidemment très, très, très étrange. C'est là où les choses commencent à devenir intéressantes. En effet, ce pèlerinage, alors je rappelle, donc, le pèlerinage des deux consuls au début de l'année définit rituellement ce que les Romains appellent l'origo. Nous voilà avec l'origo. Alors, vous avez toute une série de termes, orior, le origo, etc. Hein, et intraduisible en grec. Et l'origo, c'est précisément le premier ancrage d'un homme venu d'ailleurs dans une... Alors, je dis ça comme ça, j'ai écrit parce que c'est un peu compliqué. Et donc, vous avez un homme venu d'ailleurs dans une cité rattachée à Rome, et dont tous les citoyens ont la citoyenneté romaine. Alors, Claude Calla m'a dit que c'est le système suisse, c'est-à-dire qu'en fait, on est citoyen romain que par le rattachement à une autre, à une cité qui n'est pas Rome. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un système d'enclavement. Hein, donc, on ne peut pas être directement citoyen romain sous prétexte qu'on est né le territoire de Rome, parce que ça ne marche pas. Donc, on est... Alors, souvent, cet ancêtre venu d'ailleurs est une pure fiction, hein. Mais c'est comme ça. D'ailleurs, entre parenthèses, quand vous regardez les grands hommes de Rome, aucun n'a né d'origine, entre guillemets, romaine. Aucun ne descend des patres, etc. Et pour prendre le plus illustre dans la suite des événements, c'est César. César dont le nom est Osc. Caesar, sans doute Osc. En tout cas, comme vous savez, les finales en ar ne sont pas du latin. Donc, il est venu d'ailleurs. Alors, bon, on a inventé une histoire de... d'éléphant après, mais c'est secondaire. Alors, donc, l'Avinium est l'origo de Rome et l'origo des Iulii. Voilà, donc, parce que l'ancrage de Rome se fait à l'Avinium, et de même que l'ancrage des Iulii. Donc, vous voyez, c'est là où c'est extraordinaire, hein, particulier, et non plus banal, on sort de la banalité dont je vous parlais tout à l'heure. Ce récit de Ctesis de l'Avinium donc associe à la fondation d'une cité d'Italie, hein, une grande famille romaine, ici les Iulii, dont l'origo est cette cité. Alors là, on va quand même retrouver la banalité un instant, et après on va en venir à Rome. Je crois que je suis en train de m'autoriser de dépassement.
Oui, bon. Non,
Non, mais je vais faire
un... Nous faisons un décalage.
Non, je suis désolé.
Légitime.
Ah, non, mais... voilà. Alors, vous avez été le qui primus. Non. En fait, donc, cette affaire d'associer une Ctesis, un récit de fondation d'une cité, à une grande famille, à l'origo d'une grande famille, c'est très banal. En effet, toutes les grandes familles romaines l'ont fait. Hein, et Caton, dans son livre qui s'appelle Les Origines, mais qui est en fait Origines, avait recensé ces Origines des nobles romains, dont aucun, je vous rappelle, est donc le descendant des Patres, fondateurs de Rome. Romulus lui-même n'a pas de descendance. Il y a une coupure. Alors, cela dit, être descendant des Patres, fondateurs de Rome, ce n'est pas très glorieux, comme vous savez, ils n'étaient pas de très bonne origine. Alors, voilà. Donc, bon. Alors, à l'époque, donc. Mais alors, vous voyez ce qui se passe, c'est que. Alors, oui, juste pour vous montrer, pour vous montrer comment ça se passe, voilà. Juste utiliser l'Énéide, hein, sur la façon dont ça se passait. Alors, l'Énéide a redoublé cette affaire-là. Bon, c'est-à-dire que l'Énéide, parce qu'elle fondonne comme l'Homère, mais ça, j'en suis en train d'anticiper, hein, Ah oui, j'aurais dû traduire, mais je n'ai pas traduit. J'y ai pas pensé. Non, mais bon, c'est facile. Hein. Vous avez ici... non, ce sont les... Alors, c'est dans l'histoire de la course navale. Là, et vous avez donc toutes les séries de ceux qui sont les champions. Et vous avez donc Mnesteus, qui est un nom grec. Moxis Talus Mnesteus Genus Aquo Nomine Memi. Donc, en fait, la gens Memia et vient de Mneste. Et ensuite, Sergestus Quae Domus Tenet Aquo Sergia Nomen, je n'ai même pas besoin de vous le traduire, hein. Sergestus, mais j'ai oublié que... Oui. Je suis ridicule parce que si on me donnait ça en japonais, je serais évidemment... Voilà. Mais c'est, on a tellement le sentiment que tout le monde sait le latin. Alors, donc Sergestus, Aquo, dont la maison a le nom... la famille Sergia tient son nom. Voilà. Alors, donc en fait, alors, ce qui est intéressant, c'est vous vous rendez compte de ce qui se passe hein, quand on va de l'Acticis à l'Origo. En effet, on change complètement de temporalité. Lorsqu'on est dans l'Acticis, hein, et on utilise donc des noms, et on est donc dans un système généalogique grec, hein, où vous avez donc des généalogies, fils 2, hein, et vous avez un nom, et voilà. Tandis que lorsqu'on entre dans le temps des familles romaines, on a une gens, la gens Iulia, il y a les Iulii, et on n'a pas, pas ce temps qui est creusé hein, par toute la généalogie. Il n'y a pas de généalogie. Hein. Et donc tous les Iulii sont dans un temps présent. Ils sont tous Iulii, hein, ils ont tous la même origo. Et peu importe, en plus, comme vous savez, je ne vais pas rentrer dans la nobilitas romaine, hein, si vous voulez, je pourrais vous expliquer ça. Yann Thomas aussi vient travailler là-dessus. Donc en fait, on est dans une temporalité horizontale où le passé coexiste avec le présent sans histoire intermédiaire. Et ça, c'est le temps de l'Énéide. Alors, c'est en fait, hein, on a un passé qui coexiste avec le présent. Et ça n'est pas propre à Virgile, on s'aperçoit que ce temps de l'origo, c'est celui des premiers historiens romains qui d'ailleurs écrivent en grec. Hein. Alors ça, on en sait suffisamment pour pouvoir dire qu'ils commencent tous avec des récits de Ctisès, donc des récits pris au métagrève, et puis pouf, on passe aux événements contemporains. Hein. Le seul qui n'ait pas fait ça, c'est Ennius, mais lui... C'est pas un historien. Alors, donc, vous avez ici une esthétique de l'Énéide qui va précisément reprendre ça et qui va mélanger l'archaïsme et la modernité. Alors, évidemment, j'ai encore mis un texte en oubliant de le traduire, mais je vais vous raconter ce qu'il raconte. Alors, en fait, il y a un texte absolument extraordinaire. Alors, voilà. En même temps, ça va ça va faire des recoupements avec Homère. Et voilà. Vous avez donc. Alors, on est chez. Vous êtes au banquet chez. À Carthage, chez Didon. Hein. Et tout ça est extrêmement contemporain. Alors, contemporain pour les gens d'Auguste. Hein. On est dans la modernité, c'est le luxe, etc. Hein. Et puis tout d'un coup surgit. Critus Iopas. Hein. Alors, avec sa cithare, Kithara. Et Iopas, c'est en fait un aède. Alors, il a beaucoup de cheveux. Alors, c'est la marque de son grand archaïsme. Personne n'a des longs cheveux longs. Hein, il a des cheveux partout dans tous les sens. Hein. Et donc, personat, hein, il fait entendre son chant avec sa cithare dorée. Hein. Et ce Iopas, hein, docuitque Maximus Atlas, il a reçu l'enseignement du très grand, alors dans les deux sens. Ça, Atlas. Alors, c'est quand même pas d'hier. Hein, donc vous avez tout un type qui sort de la mythologie la plus archaïque pour aller chanter chez Didon. Hein. Alors, soit c'est de l'humour, hein, mais je ne pense pas. Et alors, je continue. Hic. Alors, qu'est-ce qui chante ce Crinitus Iopas ? Ce Crinitus Iopas hein, chante ce que chanterait un érudit alexandrin. C'est-à-dire un poème astronomique, pas du tout mythologique, Icani terentem lunam solisque labores. Hein. Il chante, alors canit, ça veut dire il chante comme un. En latin, canit, c'est celui. C'est le chanteur épique. Hein. Il chante, donc, je ne sais pas, le cours de la lune, hein, et solisque labores, c'est une façon de dire les éclipses. Voilà, les ennuis du soleil, les épreuves du soleil. Bon, undeominum, genus et pecudes, enfin, en fait, il fait un dénatement. Voilà, excusez-moi, j'espère que ça n'a pas. Voilà, donc, donc il fait une sorte de dénatérum, enfin, il chante tout, hein, il chante, enfin, c'est un physicien. Voilà, bon, donc, vous avez ici le. Vous avez ici l'image même de l'esthétique de l'Énéide. Hein. Et alors, donc vous avez le passage de l'Actisis à l'Origo, hein, pour la famille des Iulii. Alors, évidemment, des Iulii, on ne sait rien. On sait juste qu'il y a eu un prêteur, mais au-delà du IIIe siècle, on ne sait absolument rien. Hein. Alors, donc, maintenant, on en vient, et je vais terminer là-dessus, à l'Énéide elle-même, hein, c'est que, donc, en passant, il va passer de l'Actisis à l'Origo en réécrivant Homère, le but étant quand même très clairement de remplacer Homère. Et alors, le pire, c'est qu'il a, je suis désolé, réussi. c'est donc. Dans la vie de Virgile, j'ai continué à pas traduire, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je crois que j'étais tellement dans le sujet que j'ai oublié que c'était du latin. Alors, Donna, bon, grammairien, hein, explique donc il a fait l'Énéide, hein, avec bon, un sujet, un argumentum, un scénario complet, varié, complet et complexe, hein, mais quasi amborum homéri. Carminum, Instar, hein, en suivant le modèle des deux, donc c'est un homère restreint, hein, des deux chants homériques, et que, alors, et il a mélangé, praetera nominibus acrebus grecis latinisque commune, hein, et il a fait en fait un poème qui est à la fois grec et latin. Hein. Alors, bon, et in quo, quod maxima sonoma, Romanae simul urbis et Augusti Origo continitur, comme vous voyez, je n'ai rien inventé, dans lequel l'Origo, alors je ne traduirai pas, parce que l'Origo d'Auguste et celle de la ville de Rome sont contenues. Voilà. En fait, continitur, c'est mal traduit, dont le sujet est. Voilà. Alors, donc, c'est l'Odyssée plus l'Iliade. Et c'est la volonté et un poème qui est à la fois grec et latin. Alors là, c'est toute la politique d'Auguste, hein, qui fait fusionner la Grèce et Rome, fusionner le grec et le latin. Hein, et au point que d'ailleurs, bon, il va si bien réussir que deux siècles plus tard, il y a des moments où on ne sait plus, enfin, il n'y a plus de distinction par moment entre le grec et le latin. C'est. No uterque sermo. Alors, donc, il a ici, et c'est pour ça que c'est Homère. Donc, alors, c'est un. Alors, ce qui veut dire, c'est que ce caractère est effectivement parfaitement volontaire. Hein, et c'est le fameux texte de Properce. Hein. Alors, il dit que. Qu'édite Romani scriptorest, qu'édite Graii, nescio quid maius nascitur Iliade, céder la place, écrivain romain, céder la place, écrivain grec, est en train de naître, il n'a pas encore fini, hein. D'ailleurs il n'a jamais fini, comme ça, il est en train de naître, je ne sais quoi, de plus grand que l'Iliade. Alors, je ne dirais pas que c'est plus grand que l'Iliade, c'est pas certain, mais c'est-à-dire qu'en fait, il se passe qu'il y a un Homère commandé et un Homère réussi. Hein. Alors, je vais effectivement maintenant terminer, mais de dire un peu peut-être rapide. De quoi il s'agit. Hein. Il s'agit donc de créer, fondamentalement un verbe. Enfin, oui, commençons par verbe. D'abord, créer enfin un véritable hexamètre grec en latin. Parce que, bon, il se trouve que je travaille là-dessus, donc je suis un peu obsédée par l'hexamètre. Hein, mais, parce qu'en fait, vous regardez Ennius, bon, tout ça, ça ne marche pas. Il n'y arrive pas vraiment à faire des hexamètres en latin pour des raisons complexes. Hein, et en particulier, ils ont tendance à clore les vers. Ce qu'a véritablement réussi Virgile, c'est de faire des vers qui sont en fait des demi-vers. Il a réussi à créer des systèmes modulaires en latin. Et alors, ces systèmes modulaires, je ne vais pas revenir au problème de la formule et au problème homérique, mais ce qui est tout à fait remarquable, hein, c'est que vous avez en fait des modules qui sont à la fois sémantiques, syntaxiques et métriques. Alors, en effet, comment est-ce que les poètes romains composent des vers latins et grecs, j'imagine aussi, parce qu'ils composent les deux, hein. En fait, ils ne composent pas dans le vide. C'est toujours des vers précédents qui vont être refaits, repris. Et donc, mais alors, il faut à la fois, si vous voulez, il faut qu'on puisse avoir le nom à l'accusatif, un autre nom à l'accusatif. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est à la fois des modules métriques et syntaxiques. Mais en plus, visiblement, c'est pas aussi austère que ça, c'est qu'il y a, il y a toute une thématique qui va avec. Hein. D'ailleurs, on va pas faire des vers de Mirliton avec les modules. Et donc, après, en fait, tous les hexamètres qui ont suivi sont tous virgiliens. De même que toute la poésie lyrique est entièrement horacienne. Et c'est volontaire. Ça a été la politique d'Auguste. Hein. Il y a un imaginaire, ce que j'appelais sémantique, et une musique. Alors, on va en venir à la petite inscription. Alors, en fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, en fait, ça recouvre tout de suite. Alors, à peine Virgile était mort, tous les enfants sont mis à apprendre le latin dans l'Énide, ou là où c'était une langue aussi tout à fait particulière, parce qu'il y avait plein de mots grecs. C'est nécessaire pour faire une jolie sonorité. Le latin sans grec, c'est une langue poum poum poum. C'est dit aussi par Cicéron. Il faut absolument faire des xi, des zeta, des hi. Enfin, d'ailleurs, c'est des si, enfin bon, voilà tout ça, hein, et surtout pas des peu. Ça c'est joli. Mais d'ailleurs, c'est vrai, quand vous entendez le grec contemporain, c'est vrai que c'est comme ça. Bon, alors, voilà, donc cette langue a été créée avec beaucoup de brèves, beaucoup rajouté de brèves, il y avait trop de longues dans le latin, hein, et il y a ça. Alors, et tout le monde s'est mis à utiliser ces vers, hein, alors, à la fois pour créer de la nouvelle poésie, mais aussi pour faire. Alors, ici, c'est de la publicité, puisqu'il s'agit d'une inscription, hein, c'est le foulon d'Ostie. Je dois dire que je l'ai repris, je ne l'ai pas découvert moi-même. Hein. Alors, voilà, donc, alors, j'ai mis la traduction en dessous, enfin, la transcription, c'est foulones ululamque cano non arma virumque. Alors, ça reprend le premier vers de l'Élinide, qui est donc non arma. Arma virumque cano, excusez-moi. Là, donc, c'est un foulon, c'est-à-dire un teinturier, enfin, oui, et qui dit « Je chante les foulons et la chouette ». Et il s'appelle lui-même Fabius Ululi Tremulus. Hein, donc, il a un nom, fait, je sais pas, c'est un tremblement de chouette. Voilà. Donc, et il dit « Non, moi, mon truc, c'est pas arma virumque cano ». Alors, on pourrait faire un long commentaire. Hein, c'est parce que, comme les poètes érotiques disent « Moi, je ne chanterai pas les armes, etc. Je vais chanter les amours et les jeunes filles. Hein, » là, il dit « Je chante les foulons et la chouette. Hein, » et non pas. Voilà. Donc, ça s'appelle la récusatio. Donc, c'est là sur laquelle les choses je voudrais terminer, hein, en faisant le bilan. En fait, dans l'Énéide, il y a quatre modèles mis en œuvre, une Ctesis, une Origo, un poème des retours, puisque c'est celui de l'Odyssée, et c'est un, entre guillemets un retour, mais qui est un aller d'Énée, quoique, et une épopée guerrière. Mais tout ça dans un système systématiquement non chronologique. Hein, c'est pas une histoire du passé. Il n'y a aucun référent virtuel. Et je dirais, pour dialoguer avec les narratologues, qu'il n'y a aucun monde possible. Vous ne pouvez pas faire un monde possible dans le... c'est à la fois le présent et puis Homère. Alors c'est très bizarre, hein. Tout ça, et si vous regardez, c'est totalement incohérent. L'Énéide, alors c'est pour ça que totalement incohérent, hein, mais c'est pas gênant. En plus, même il y a des incohérences narratives. Je vous donne juste un exemple, c'est l'histoire de la nourrice. Toutes les femmes sont laissées avant qu'ils partent pour l'Italie, puis tout d'un coup il y a une nourrice qui apparaît parce qu'il faut qu'il y ait un passage sur le pauvre jeune homme qui meurt. Bon, alors il dit, ah ben oui, finalement la nourrice est venue quand même. Parce que, alors c'est amusant. Alors donc en fait, c'est-à-dire le système, c'est une œuvre modulaire et fragmentaire parce qu'elle est faite comme ça. Elle est faite pour être citée par petits bouts, hein, et donner des modules pour pouvoir écrire. Hein. Donc vous avez donc une multitude d'entrées aussi sur les littérae et les savoirs anciens, parce qu'il n'y a de littérae à Rome que si on a des éditions commentées. Hein. Sinon, c'est n'importe quoi, ça ne fait pas passer des littérae. Donc d'emblée, il a été commenté, l'Énéide, avec, et l'essentiel, c'est de pouvoir ouvrir sur tout le savoir du monde. Bon, là, je renvoie à la façon dont Christian Jacob a très bien montré ça, la façon dont une œuvre ouvre sur tout le savoir du monde par fragments. Hein. On prend un vers, on dit « ah oui, mais… » Alors, bon, vous connaissez sans doute les gloses de Servius ou les commentaires de Macroix. Donc, là est justement la fondation virgilienne. Hein. Ça n'est pas Rome, ça n'est pas Lavinium. Au sens fondateur, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est la fondation d'une tradition poétique. Et c'est ça qui est important, puis je crois que ça nous met aussi en relation avec Dante. C'est une tradition, c'est une langue, c'est une tradition poétique. Et c'est-à-dire que, et alors là, c'est pas le hasard, et, ou bien, bon, enfin, c'est bien l'histoire, mais c'est fait pour ça, et ça a marché comme ça. Je veux dire, c'est peut-être le plus étonnant. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'avais oublié de vous donner. Excusez-moi, il y a un post-scriptum. C'est que chez Foulon d'Ostie, il y a ces deux images. Vous avez Énée et Romulus. C'est Rome et Lavinium. C'est les deux parties de l'histoire qui sont indispensables. Voilà. Mais bon, c'était juste comme ça.
Merci beaucoup, vraiment, c'était passionnant et parfaitement dans le prolongement de...
Ah oui, non, mais ça, j'étais contente de savoir.
De M. Jaillet. Et puis, je suis particulièrement heureux de voir que votre conclusion est un peu ce que je pensais confusément, c'est-à-dire le texte fondateur d'une tradition, et alors même de l'hexamètre latin. Et ça me rappelle quelque chose, j'ai feuilleté récemment une édition scolaire de Virgile de la fin du 19e siècle, et je suis tombé sur... Il y a des commentaires de l'éditeur. C'est l'édition qui précède celle d'Hachette, vous savez, la portative d'Hachette. Et je ne sais plus quel vers, j'aurais dû le noter. L'éditeur dit « Cet hexamètre est le plus splendide des hexamètres de toute l'Antiquité, bien mieux que n'importe quel hexamètre grec. » C'est-à-dire que Virgile avait porté l'hexamètre à sa quintessence. Cela rejoint évidemment des choses que nous avons dites par ailleurs. Et alors, y a-t-il des réactions et des questions, des réactions, des commentaires?
L'inscription du Foulon est bien postérieure à Virgile, quand même.
Oui. Elle n'est pas très... Ben, elle est à Ostie, mais oui, mais enfin, vous voyez, c'est pas le style des... Le style est... Des images, et pas très très tardif. Hein.
Non, parce que
ça va être le premier.
L'extraordinaire, c'est Virgile aurait pris son inspiration chez le Foulon, mais ça, c'est pas possible.
Je ne pense pas. Non, il est postérieur.
Y a-t-il une question?
Le public. public est consterné.
Non, pas du tout. Ce que vous avez mentionné ce passage du chant 1 avec le crénitus iopas, n'est-ce pas, qui, et, oui. qui, c'est un passage qui m'a toujours beaucoup intrigué et qui répond d'une certaine façon à ce que disait Dominique Jailleur, c'était, et je n'ai jamais trouvé de commentaire fouiller de ce passage sur le, parce que en effet ce que chantent ce n'est pas du tout ce que chantent les aèdes autrefois, et en même temps est-ce seulement une afféterie, une mignardise alexandrine, ou bien est-ce qu'il voudrait dire, enfin, parce que c'est quand même un poème c'est un poème presque cosmogonique, n'est-ce pas, puisque Unde hominum genus, etc. Oui, là, oui. Il y a quelque chose de plus qui dépasse son ambition, Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de plus... Alors, je ne voudrais pas... Là encore, il faudrait couper les micros comme hier, mais lorsque nous commençons à délirer, nous coupons symboliquement les micros. Je ne sais pas si vous avez lu il y a très longtemps un article, enfin je sais bien, d'un monsieur Godefroy de Calataille, sur... Alors qu'il voulait trouver une... C'était un article qui était paru dans l'Atomus, je crois, enfin... Tout ce qu'il y a de plus sérieux, enfin, et où il voulait trouver une symbolique. Il ne parlait pas je ne me souviens plus s'il parlait, mais il voulait trouver une symbolique astrologique, en quelque sorte, dans les 12 chants de l'Énéide. Et il couplait ça avec les histoires des voyages de Virgile, etc. Bon, c'est pour ça que nous avons coupé les micros. Et nous pouvons. Que penser ? Parce que je trouvais que son exégèse était en quelque sorte. Justifié par ce passage qui me semble quand même très intriguant. Enfin, voilà,
Alors, on peut faire toutes les exégèses qu'on veut, je veux dire, mais bon, on fait un système hors sol, quoi. Je veux dire, bon, on peut raconter n'importe quoi. Hein, et ça, mais c'est très amusant de raconter n'importe quoi. C'est pour ça que je vous ai dit, bon, on va être historique et philologique, et il n'y a aucune raison de penser qu'il y a un sens caché, là, encore une fois, on n'est pas dans le sens caché. Hein, pourquoi est-ce qu'il aurait fait du sens caché? Pour qui? Comment? Non. Bon, ça n'est pas raisonnable. En tout cas, bon, là, on peut ouvrir le micro. Mais si vous voulez, c'est ce que je vous disais à propos du 19e et le 20e. On est au 21e, on va revenir à des choses beaucoup plus terre-à-terre.
Fin 20e.
Non, bon. Non, ce que je veux dire, non, pour moi, c'est pas du tout bizarre, hein. Je ne parlerai pas d'affaîtrie alexandrine. Je pense que je.
Non, vous l'avez pas.
On a pris l'habitude, mais il n'y a aucune raison de dévaloriser les alexandrins. C'est une autre esthétique. Hein. Alors là, il y a, si vous voulez, c'est volontaire. Je veux dire, on est dans une dénégation du temps. On est dans un temps immobile, mais si vous êtes bon, donc on prend Atlas, hein, et puis a enseigné. Alors non seulement ça, mais c'est aussi une génération qui a peuplé. Il y a la génération d'Atlas, il y a déjà des mythographes qui les utilisent. Donc voilà. Alors donc ça c'est. Et puis vous avez raison, c'est un pôle. Alors je dirais, oui, cosmogonique si vous voulez, mais je serais plutôt cosmologique parce que. Vous n'avez pas de don de Dieu, hein, c'est les étoiles. Hein. Alors, mais je vais vous donner un autre exemple. Il n'y a pas de sens caché. Hein, c'est rempli de choses comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Aîné visite ce qui sera le futur emplacement de Rome. Donc, il est là avec l'Arcadien Évandre. Donc, ils vont. Alors, on pourrait croire qu'ils disent que c'est une forêt, etc. Pas du tout. Il dit. Alors, là, Évandre, on ne sait pas qui parle, sans doute c'est Virgile, et il est dit là, il y aura plus tard ceci, ça. Donc, vous avez un. Donc, c'est complètement aberrant, je veux dire. Mais c'est plein d'histoires comme ça. Hein. Aîné se fait dire là, il y aura plus tard les somptueuses demeures, parce qu'il est sur le Palatin. Bon, tout ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un monde possible. Hein. C'est fait uniquement pour les contemporains de Virgile. Alors, nous, on n'arrive pas à prendre ça au sérieux. Mais je crois qu'il faut faire vraiment, bien qu'il s'agisse de Rome, un voyage anthropologique puissant. Les Romains ne sont pas nous. Hein. Et ils ont cette façon de tout d'un coup d'abolir le temps. Mais c'est pour ça que c'est intéressant que ça nous vienne du droit, hein, puisqu'en fait, le droit romain est sans doute la chose la plus étrange qui soit, et donc entrer par le droit romain dans Rome, c'est pas mal. En plus, c'est Yann Thomas qui était un homme absolument génial. Hein, et voilà. Donc, je pense qu'il faut, il faut prendre l'Origo pour ce qu'elle est, hein, c'est-à-dire une fiction, et donc et l'Énéide, c'est ça. Je sais que c'est un peu dur, mais... Non, 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 c'est très...